Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Nouakchott, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Crise migratoire, au moins 7 migrants dont 2 enfants sont morts et 123 autres ont été secourus ce mardi après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, selon le capitaine d'un navire de la marine libyenne, Rami Gomeid. Les rescapés ont été conduits au port de Tripoli et ils devraient être transférés dans un centre de détention dans la capitale libyenne. Rideau hier sur le sommet de l'Union africaine en Mauritanie, parallèlement aux questions de sécurité liées aux crises sur le continent, dont celles en République démocratique du Congo, au Sahara occidental et au Soudan du Sud, les leaders de l'Union africaine ont discuté de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, qui pourrait représenter un marché de plus d'un milliard 200 millions de personnes. Les précisions de Jean-Roger Bion.
De bonnes nouvelles à l'issue du sommet de Nouakchott sur le front de la zone de libre-échange continentale. 44 pays sur 55 avaient signé en mars à Kigali l'accord sur la ZLEC. 5 nouveaux pays ont signé dimanche. L'Afrique du Sud, la Sierra Leone, la Namibie, le Lesotho et le Burundi. 6 pays ont ratifié l'accord qui entrera en vigueur quand 22 l'auront fait. C'est un progrès significatif, il faut relever des progrès notables vers l'Afrique que nous appelons de nos vœux, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, à l'issue du sommet. Les dirigeants africains veulent également mieux coordonner avec l'Europe au sujet des migrants, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, faisant allusion à la mise en place d'un observatoire sur la migration basé à Rabat, décidé par le sommet. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel en marge du sommet qui s'est achevé le même jour, assombri par des attaques djihadistes dans des pays du Sahel. Au menu de ces entretiens, la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes et appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane déployée notamment dans le nord du Mali.
Concernant le G5 Sahel, tous les fonds requis et promis n'ont pas encore été réunis. Et vendredi dernier, le quartier général de la force du G5 Sahel à Sévaré, au Mali, a été la cible d'une attaque terroriste qui a fait 3 morts. Pour une analyse des difficultés auxquelles ce projet fait face, Eric Maninakiza a joint à Niamey l'éditorialiste et directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement, Moussa Aksar.
Le problème, il est réel, vu ce qui se passe sur le terrain, quand on regarde les différentes attaques qu'il y a eu au QG même du G5 Sahel, et avec d'autres attaques le long des frontières des pays concernés, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État ont mis, il faut le dire, la charrue avant le bœuf, ils n'ont pas su, dès au départ, mobiliser les ressources nécessaires, les hommes nécessaires à cette mission, avant de vendre ces téléphones blancs-là aux populations qui sont meurtries par les attaques des djihadistes.
Il y a cette question de l'argent.
Ça fait un bout de temps que les chefs d'État de la région, notamment le président Issoufou, disaient que très bientôt, la force du G5 Sahel va monter en puissance. Et après, nous n'avons rien constaté parce que et il se trouvait qu'il n'y avait pas des ressources nécessaires avec les promesses de certains pays occidentaux et des pays du Golfe. Donc l'argent n'a pas atterri dans les caisses. Donner un espoir aux populations qui subissent encore les affres de cette insécurité le long de frontières et même dans les grandes villes. Nous pensons que ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt une question de volonté. Donc on n'a pas besoin de faire tout cet entamage au moment où les djihadistes se renforcent davantage.
Que faut-il faire pour rendre opérationnelle cette force du G5 Sahel?
Bon, écoutez, tout d'abord, il faudrait mettre en application les droits de poursuite, échanger davantage les renseignements entre les pays qui sont concernés. Ensuite, avoir des ressources pour les ressources vont venir après la mise en place des hommes sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il faut mettre les hommes d'abord, avoir les ressources avant d'engager. Les États-là sont indépendants, ils peuvent avoir des unités qui peuvent se déplacer le long des frontières. Ces États-là sont souverains et ils sont vraiment à même de lutter contre ces djihadistes-là. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, qui ne représentent même pas le dixième de toutes ces forces-là réunies. Il suffisait vraiment de mettre en application les droits de poursuite et aussi mettre à contribution les partenaires qui sont là. Et les populations s'interrogent même pourquoi ces partenaires occidentaux sont là et qu'il n'y ait plus d'attaques au moment où ils sont présents. Et continuer vraiment à traquer les djihadistes par les armées régulières dans un pays ou dans un autre.
L'éditorialiste Moussa Aksar joint Niamey au Niger. Et toujours concernant le sommet de Nouakchott, les leaders de l'Union africaine ont fait bloc autour de la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Les détails avec Raïssa Girondin.
L'Union africaine a demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir la candidature du Rwanda. Un soutien collectif à la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a donc été pris à Nouakchott. Avant l'ouverture du sommet, le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, avait dit qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses homologues. Paris appuie déjà cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique. La francophonie s'est invitée à ce sommet après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Le prochain sommet de la francophonie, devant désigner le futur chef de l'OIF, se réunira les 11 et 12 octobre prochains en Arménie.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales qui ont enregistré moins de 500 000 de nouveaux électeurs étaient entachées d'irrégularités. C'est ce qu'a dénoncé lundi à Abidjan un avocat qui représente à la fois des candidats indépendants et de l'opposition. Le point avec Morgane Guiriec.
Dans plusieurs villes, des personnes se sont fait inscrire sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote, a accusé Maître Claverndry. Sans préciser le nombre de cas litigieux, il ajoute qu'il faut clarifier toutes ces questions pour que des contestations ne puissent encore diviser les Ivoiriens lors des élections municipales et régionales couplées cette année et pour la présidentielle de 2020. Des candidats avaient déjà dénoncé des fraudes au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. La commission électorale indépendante a assuré enquêter sur ces allégations. L'opération de révision des listes électorales, qui s'est déroulée du 18 au 24 juin, a abouti à l'enregistrement de plus de 428 000 personnes, qui s'ajoutent à plus de 6 300 déjà sur les listes. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté avait appelé les Ivoiriens à ne pas s'inscrire, contestant la légitimité de la CEI, qu'elle juge déséquilibrée en faveur du pouvoir.
Au Congo-Brazzaville, 4 compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko ont été condamnés lundi à 30 mois de prison ferme par la cour d'appel. Ses opposants n'avaient pas été jugés en même temps que le général Mokoko car ils ont été dessaisis de l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Plus de détails avec notre correspondant Arsène Séverin à Brazzaville.
Jacques Bananganzala, Jean Gwabi, Anatole Limbongo Ngoka et l'homme d'affaires Yvan Ghislain Tsende Mungondo ont été condamnés pour complicité. Le juge correctionnel a estimé qu'ils avaient appuyé financièrement l'action du général Mokoko visant à déstabiliser le régime de Brazzaville. Arrêtés en 2016 à différents endroits du pays, alors qu'ils surveillaient l'élection présidentielle pour le compte de leur candidat Jean-Marie Michel Mokoko, ses opposants ont d'abord été détenus pendant de longs mois dans les geôles de la DGST. Ils ont ensuite été transférés à la maison d'arrêt où ils ont attendu leur procès et maintenant où ils purgeront leur peine. Ils ont déjà passé en tout 27 mois en prison. Jugés en première instance par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Brazzaville, ses compagnons de Mokoko disposent de 3 jours pour faire appel. Dans la foulée, le propriétaire du journal critique Talassa, Gis Fortuné Ndombembemba, a été mis en liberté provisoire le temps que son procès se tienne. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer, la police fédérale américaine a annoncé hier l'arrestation d'un homme proche du réseau Al-Qaïda, soupçonné d'avoir planifié un attentat pour demain mercredi à l'occasion du 4 juillet, la fête nationale des États-Unis. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Le suspect qui se fait également appeler Abdourahim Rafik a été interpellé et écroué dimanche. De son vrai nom Demetrios Nathanael Piste, cet Américain de 48 ans a été inculpé de soutien à une organisation terroriste et encourt 20 ans de prison. Son intention était de tuer des soldats et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs, selon l'agent spécial du FBI Steve Anthony. Demetrios Pitts a un casier judiciaire chargé. Il a déjà été condamné pour des vols commis avec circonstances aggravantes et des violences conjugales. Il était surveillé depuis des mois selon la police fédérale, à qui l'accuse non seulement d'avoir publié sur les réseaux sociaux des messages favorables à Al-Qaïda, mais aussi d'avoir exprimé son désir de recourir à la violence armée.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.